Tout d'abord, j'aimerais juste, dans les notes biographiques que vous avez, ça dit que je me concentre actuellement, entre autres, sur un travail avec la police à Montréal. Je fais partie, entre autres, d'un comité qui s'appelle le comité stratégique des partenaires communautaires. Est-ce que ce micro fonctionne?
Oui.
Oui? Alors, si je me promène avec, il y a des gens qui risquent de le voir. Bon. J'ai préparé, au lieu de faire un PowerPoint, j'ai préparé un document qui s'appelle « Perspective en matière de profilage racial ». Ça devait être, on m'avait promis que ce serait photocopié pour tout le monde dans la salle. Il paraît que les copies sont en route. Bref, au lieu de faire un PowerPoint, vous aurez un document. Il y a les références à la jurisprudence, à une certaine documentation. Et également, vous avez certaines références à des recherches qui ont été faites. Donc, vous allez pouvoir partir avec. J'ai 15 minutes pour faire. Je vais partir avec quelque chose qui n'est pas nécessairement en soi théorique en ce qui concerne le profilage racial, mais juste, c'est important, je pense, de présenter une espèce de trame de fond de ce qu'est le travail avec les policiers ou des réalités. Alors, c'est des constatations. Et je m'excuse pour ceux qui vont avoir le texte, parce que parfois j'ai écrit constatation, donc j'ai bégayé un peu. Donc, première constatation, j'en ai mis, je pense, 7. Le policier intervient souvent dans une situation qui peut représenter un danger pour lui ou pour elle. Deuxième constatation, le justiciable, donc le citoyen, peut facilement faire partie d'un groupe marginalisé ou racisé. Et la communauté d'origine du justiciable peut avoir fait l'expérience de racisme ou d'exclusion. Donc ça fait partie déjà du bagage de personnes qui subissent l'intervention policière. Bien sûr, le policier n'est pas nécessairement conscient de cela. Troisième, les policiers ne sont pas nécessairement racistes, bien que ça existe. Cependant, les policiers, dans leur immense majorité, sinon totalité, participent aux stéréotypes appris dans la société ou dans le milieu de travail. C'est important de le noter parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille relativement peu. Quatrième constatation, les policiers ne sont pas nécessairement conscients de ce qui les motive à intervenir. En anglais, on utilise le terme « hunch ». Il n'y a pas de véritable traduction, on parle de réaction instinctive. Cependant, les policiers ne sont pas équipés pour questionner ça. Alors donc, des réactions qui arrivent à partir d'une impression, sans qu'on questionne, ça peut facilement, bien sûr, résulter de stéréotypes que possède le policier. Cinquième, le justiciable racisé. Et quand je dis racisé, vous allez bien sûr inclure la notion de profilage social, parce que ce sont souvent les mêmes réactions. Donc, les personnes qui font partie de groupes qui sont surcontrôlés par la police peuvent interpréter les actions du policier comme une manifestation de racisme ou d'exclusion et réagir avec l'impatience ou même l'agressivité. Sixième constatation, un événement banal peut souvent entraîner des conséquences lourdes pour le justiciable, ce qui est simplement un simple contrôle, entre guillemets, devient facilement, et je donnerai quelques exemples, des cas concrets, devenir une accusation d'entrave quasi-judiciaire pour un jeune dont il commence sa vie souvent avec ou voie de fait sur un policier, ainsi de suite. J'en ai 8 constatations. Les relations entre certaines communautés racisées et les services de police sont marquées par la méfiance. C'est vrai, 8e, je l'ai ajouté avant-hier, et c'est de mon expérience. Plusieurs services de police ont adopté des politiques contre le profilage racial. Beaucoup d'efforts et d'argent ont été investis dans le travail de formation du personnel, et ce qu'on constate sur le terrain, on ne remarque pas de modification majeure des comportements ou des attitudes des policiers. Donc si on avait comme budget à dire « j'investis de l'argent dans quelque chose qui va avoir un impact », c'est de l'argent qui semble avoir été mal investi. Moi, j'ai développé dans mon travail il y a plusieurs années avec des agents d'immigration, quand j'étais, entre autres à l'époque, vice-président de l'Église des droits et libertés, on intervenait sur la détention qu'on voyait comme abusive, notamment de ressortissants algériens. Et nous avons cherché à déconstruire ce qui se passait. Et on a développé le terme, ce que j'appelais la spirale. L'agent d'immigration qui commence par tutoyer. J'ai volontairement sorti ça de l'expérience de la police, mais vous allez voir après que c'est un peu le même phénomène. L'agent d'immigration tutoie quelqu'un qui reçoit ça culturellement comme insultant. La personne dit « excusez-moi, j'ai droit au respect ». L'agent dit « non, c'est moi le boss ici ». L'autre réagit en disant « si c'est comme ça, j'ai besoin de mon avocat ».« Ah, si tu as besoin d'un avocat, tu as quelque chose à cacher ». Donc vous voyez déjà l'énergie comme est, ça commence à tourner de plus en plus vite. Ça devient une tornade et finalement, parce que les pouvoirs d'arrestation sont beaucoup plus larges que pour les policiers, on avait des gens qui passaient une année en détention sans être criminels, parce que supposément, ils ne coopéraient pas avec les agents. Donc, c'est là où j'ai développé vraiment cette notion. Et dans le texte, vous allez avoir 3 exemples. Il y en a un, c'est l'un que je vais prendre, un des 3, parce que je suis un peu limité en temps. C'est un cas d'un homme gay qui conduisait la voiture de son chum. Lui faisait partie de la direction de diversité. D'ailleurs, c'était le responsable des relations avec la police. Il est d'origine libanaise. Il conduisait une voiture, activité de financement dans le village gay à Montréal. Et là, pour les gens qui connaissent Montréal, coin de Saint-Hubert, de Maisonneuve, il tourne en droite pour monter jusqu'à Sherbrooke. Le couple habitait sur Saint-Hubert, juste un petit peu en haut de Sherbrooke. On parle d'une distance d'environ 500 mètres au plus. Il passe sur un feu jaune presque rouge, voiture de police est au coin, vérifie la plaque. La voiture appartient à un dénommé Hugues Lévesque. L'homme basané, bon, manifestement, ne correspond pas. La voiture de police suit la voiture du futur accusé jusque derrière chez la résidence du couple. Le conducteur sort, le policier sort de son véhicule et dit « C'est quoi ta nationalité ?» Donc plutôt « T'es de quelle nationalité ?» Là, le citoyen canadien qui se considère québécois d'origine libanaise dit « C'est quoi cette question-là » Et il dit « Québécois ». Le policier repose la même question de façon plus agressive. Mon futur client dit « Ah, il était fédéraliste !» Alors il dit « Deuxième fois, Canadien !» Il s'est fait plaquer contre la voiture, menotté, embarqué. Entre-temps, deuxième voiture arrive en renfort. Manifestement, le policier pensait que la voiture était possiblement volée. D'ailleurs, un cas très intéressant qui vient de sortir à Longueuil, à peu près en semblant de matière, Niemi vous en parlera sans doute tout à l'heure. Dans le sens que si vous êtes basané et vous conduisez la voiture de quelqu'un qui a un nom à consonance, entre guillemets, québécoise pure laine, vous êtes manifestement un voleur d'auto. Mais bref, on n'a pas posé la question, quel est votre rapport avec le propriétaire du véhicule? Ce n'est pas ça, ce qui aurait été en dit, t'es de quelle nationalité? Finalement, donc, beaucoup d'émotivité, accusation de quoi? Comme on voit dans beaucoup de cas, il faut trouver des raisons. Alors ici, conduite en faculté affaiblie, conduite dangereuse, et par la suite, bien sûr, embarqué au centre d'opération, le justiciable, très émotif entre-temps, très en colère, refuse de faire livrer son maître, avant d'avoir parlé à son avocat, donc quelqu'un qu'il connaissait. Et bien sûr, donc, autre accusation d'avoir refusé de fournir un échantillon de son Hélène pour vérifier s'il était effectivement en état d'ébriété. Avec des rapports de police qui disaient qu'il faisait du slalom en montant la côte de la rue Saint-Hubert à 90 km/h. Bon, et là, on arrive au procès. Première question, et vous allez voir par la suite, le profilage racial ne s'attrape pas par une déclaration, une admission du policier quand il fait qu'il ou elle est raciste. C'est devenu l'exception. Ça existe encore. Il y a quelques cas de plaintes en cours actuellement, notamment avec la dame matricule 728, un cas qui est sorti récemment. Cependant, c'est plutôt l'exception. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? Première chose qu'on cherche, c'est le problème dans la preuve. Est-ce que les policiers sentaient l'obligation de justifier par après-coup leur intervention? Bon, et dans ce cas-ci, le minutage inscrit dans le rapport ne marchait absolument pas. J'avais un témoin qui disait que même si on fait ça à 20 km/h, ça prend à peu près une minute. Dans le temps inscrit, c'était 5 minutes. Donc déjà, ça ne marchait pas. Contre-interrogatoire, est-ce que vous avez noté si les feux, est-ce qu'ils étaient verts ou rouges? Ah, on n'a pas regardé. Bien, là, vous avez suivi une voiture qui faisait du slalom, donc conduite dangereuse, 90 km/h. Normalement, vous auriez plutôt arrêté. Conducteur pour pas qu'il tue quelqu'un à 3h du matin à Montréal. Surtout une zone quand même relativement densément peuplée. Et par la suite, il y a autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, puis ça démontre les problèmes que vous allez voir en matière de profilage racial et de beaucoup de travail avec des groupes racisés. Mon client était très émotif pendant qu'il témoignait. Et là, la porte de la couronne a dit ni plus ni moins, c'est quoi le problème de dire votre nationalité? Moi, j'ai pas de problème de dire la mienne, les Québécois purlaine. Alors donc, moi, je voulais un témoin expert, et ce qu'on a eu finalement, c'était un gros débat, savoir si c'est pertinent ou pas. Le témoin ne connaît pas le policier, il ne sait pas s'il est raciste. Il ne connaît pas le justiciable, il ne sait pas s'il est démesurément émotif. Mais ce n'est pas ça que je prouvais. Je prouvais que sa réaction est normale. Et finalement, avec ça, on a vraiment fini par gagner. Maintenant, très rapidement, heureusement, vous allez voir le reste du texte. L'origine de la notion de profilage racial. Bien sûr, il y a une longue histoire de racisme très ancrée dans la culture de tous les services de police en Amérique du Nord. Il ne faut pas l'oublier. Cependant, le profilage racial comme structure est venu d'une trouvaille au New Jersey où on disait que les trafiquants de stupéfiants étaient des jeunes hommes d'origine noire, hispanique, qui conduisaient des voitures de sport et de luxe. Alors, donc, on les arrêtait, interpellait et fouillait les voitures. Quelle voiture conduite par qui? Des noirs, des hispaniques, voitures de sport. Qu'est-ce qu'on a eu avec les statistiques à la fin de l'année? 80% de ceux des voitures dans lesquelles on a trouvé des stupéfiants étaient conduits par des jeunes hommes noirs ou hispaniques. Alors, c'est devenu une espèce de spirale ou logique circulaire qui faisait en sorte que... Et ça devenait une preuve, à savoir que les jeunes hommes noirs ou hispaniques étaient des trafiquants de stupéfiants, donc leur communauté était bien sûr beaucoup plus ciblée. Au Canada, il y a eu malheureusement une pollution parce que le GRC travaille avec les services de police américains. Cependant, on a d'autres phénomènes. Premier phénomène qu'on a ici, le contrôle routier existe. Toronto, Halifax, pas mal. Beaucoup moins à Montréal. Ce qu'on a à Montréal, c'est plutôt le phénomène de jeunes dans les parcs, des espaces publics, des centres commerciaux, où les jeunes sont vus comme possiblement des membres de gangs de rue, des voleurs, etc. Et souvent, c'est les plaintes de citoyens qui ont peur à cause de l'image qui est projetée des jeunes qui appartiennent à la minorité visible. On a aussi un phénomène très répandu dans les quartiers un peu huppés à Montréal ou dans les banlieues, à savoir que si vous êtes jeune et noir, la police va vous exiger que vous justifiez votre présence dans le quartier. Alors, subir ça une fois, ça va, mais quand on subit ça, parce que tous les soirs, lorsqu'on rentre à la maison, ça fait dur. Question maintenant très rapidement, les définitions de profilage racial, parce qu'il y a une bataille dans les services de police. La définition la plus acceptée est à l'effet, c'est une intervention policière qui est motivée en tout ou en partie, je suis en train de paraphraser, par les origines ethniques, couleur de peau, etc., de la personne interpellée. Les forces de police ont tenté d'avoir une autre définition, à savoir que l'intervention était essentiellement causé par le facteur en question. La grosse différence, c'est qu'il y aura toujours d'autres choses. Quand vous conduisez une voiture, là, à partir de 102 km/h sur l'autoroute, vous êtes déjà en infraction. Il n'y a aucun policier qui va arrêter quelqu'un qui fait du 102. Cependant, vous allez voir dans les rapports, lorsque le conducteur est noir, tout d'un coup, il n'a pas signalé avant d'aller à gauche. Il faisait du 105 km/h. J'ai écouté là. À partir de cela, on commence à se poser des questions, à savoir quel était le véritable motif de l'intervention du policier. Ce qui m'amène au prochain problème, comment le prouver? J'ai dit tantôt, on ne prouve pas le racisme. Donc ça prend d'autres choses, contradictions, etc. Et c'est ce qui est vu comme étant acceptable. Il y a au Québec, dans une décision en matière de déontologie policière, du comité de déontologie policière, on commence à regarder la possibilité d'utilisation de statistiques. Pour les gens qui travaillent beaucoup avec la question de théorique de lutte contre le racisme, il y a un travail qui a été fait aux États-Unis. On commence à peine à s'inspirer de cela comme élément de preuve, à savoir dans quelle mesure tel service de police a des pratiques qui seraient disproportionnées face à tel groupe de la société. Et on peut espérer que d'ici quelques années, ce soit des moyens de preuve qui seraient acceptables. Je dois avoir à peu près une minute qui me reste. Ah, c'est bien ça. Oh, d'autres questions qu'il faut bien mentionner, ça montre le travail à faire. Il est interdit au Canada d'utiliser ce qu'on appelle l'utilisation oblique d'une autre disposition législative. Je m'explique. La police a un énorme pouvoir en matière de contrôle routier. Pourquoi? Bon, il va s'en mettre, est-ce que les papiers sont en règle, est-ce que la voiture est bien assurée, etc. Et la Cour suprême a dit oui, énormément de pouvoir. Oui, c'est arbitraire, mais c'est nécessaire pour protéger la population. Cependant, ce pouvoir-là ne doit pas servir à d'autres choses. Et ce que la police fait régulièrement, c'est que quand elle pense que peut-être parce que c'était noir, et noir en soi peut-être ne suffit pas, mais j'aimerais avoir son identité. Et au Canada, on n'est pas obligé de s'identifier. Alors, qu'est-ce que la police fait souvent? Et là, je veux lire un extrait... À Québec, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait l'opération Scorpion. Il y avait un réseau de prostitution juvénile. Certains jeunes noirs de Montréal étaient impliqués là-dedans. On parlait de gangs de rue. Et là, pendant un bout de temps, tous les noirs de Québec étaient à peu près systématiquement contrôlés. Et là, ici, c'est le porte-parole de la police de Québec de l'époque. Interrogé à savoir si les agents accordent depuis un an une attention particulière aux citoyens de la communauté noire, le porte-parole de la police de Québec répond par l'affirmative. rappelant le contexte actuel. Je vous dirais que oui, il y a peut-être une attention particulière, j'adore l'expression, portée à la communauté noire. Après ce qui est arrivé, les patrouilleurs dans le secteur accordent une attention particulière à la communauté noire, mais ce n'est pas discriminatoire. Et continuant en disant, M. Vézina, le porte-parole, rappelle qu'un individu interpellé par les policiers n'est pas tenu de s'identifier s'il n'a rien fait d'illégal. Avant d'ajouter qu'il est très facile pour un policier de signaler une infraction aussi bénigne que de traverser la rue sans regarder. Citation, cela fait partie des moyens légaux qu'on a pour interpeller les gens. J'ai été patrouilleur pendant 6 ans et c'est la meilleure façon de connaître les gens dans le secteur ou de vérifier qui ils sont. Tout ça pour dire que la police, de façon consciente, viole ce que la Cour suprême a dicté en matière d'utilisation d'autres dispositions comme au Québec le Code de la sécurité routière. Très rapidement sur les impacts sur les communautés. Vous allez avoir des références, entre autres, à 2 documents que je trouve extrêmement intéressants. Il y a un document sur la notion de ce qui s'appelle Stop and Frisk, donc arrêter fouiller à New York, et une autre, une étude qui était préparée par le Center for Constitutional Rights. On voit notamment que cette année, un projet qui aura 800 000 interpellations et fouilles dans la ville du Nord. L'an dernier, c'était 665 000. 85% des personnes interpellées sont des hommes hispaniques ou noirs, qui pourtant sont à peu près 53% de la population dans l'ensemble. Très souvent, ils sont obligés de baisser les pantalons, écarter les jambes, tout ça sur le trottoir devant d'autres personnes, souvent près d'où ils habitent. L'impact est dévastateur. Les gens ont peur de sortir de chez eux. Autres groupes qui sont aussi ciblés, des homosexuels efféminés, parce que peut-être ils pourraient être prostituées. Des jeunes filles qui sont habillées d'une certaine façon, encore une fois, il y a des femmes qui disent ne plus avoir mettre de condom dans leur sacoche, parce que s'il y a une fouille, elles pourraient être arrêtées pour prostitution. Des travestis, etc., transsexuels, et j'en passe. Moi, j'étais surpris de voir à quel point il y avait une peur chez certains gays et lesbiennes, parce qu'on n'a plus ça à Montréal. Donc, l'impact sur les communautés, d'une part, on voit ça. En Angleterre, dans une autre étude qui était faite par des journalistes du Guardian avec des chercheurs du London School of Economics, ce qu'on a constaté, c'est que le premier facteur qui incitait les jeunes des communautés racisées en Angleterre à participer aux émeutes de 2011, c'était quoi? Une haine contre la police. Les gens voulaient se venger, sachant même qu'ils allaient détruire, qu'ils allaient casser. Mais c'était vraiment pour une fois, on va leur montrer. Chose. Ce qui est très intéressant, extrêmement inquiétant si on veut vraiment avoir une société ouverte et respectueuse des droits de la personne. Ah, c'est génial. Faux va vous parler des embûches en matière de recours. Je vais parler très rapidement du fait qu'au Québec, du moins, il y a certains éléments qu'on peut retenir. Dans beaucoup de cas, les gens plaident coupables à une infraction. Qu'il soit un règlement municipal, n'importe quoi, parce que juste le fait, ou même criminel, parce que le fait d'aller en cours, de perdre des journées de travail, etc., peut-être même de perdre son emploi, fait en sorte qu'on a tendance à négocier peut-être des coupables. Il y a une bonne décision du tribunal des droits de la personne du Québec qui dit que ça n'empêche pas une plainte en matière de discrimination pour profilage racial. Parce que l'argument de la ville a toujours été si vous êtes plaidé coupable, donc vous êtes faite pour le reste. Donc ici, c'est très important de noter que ce n'est pas le cas. Cependant, vous devez bien noter la prescription, c'est-à-dire le délai que vous avez pour pouvoir poursuivre. S'il y a une blessure corporelle, vous avez 3 ans. S'il n'y a pas de blessure corporelle, vous avez 6 mois. Extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, soit à la commission, soit avec des poursuites civiles, et qui ont attendu pour n'importe quelle raison, traumatisme, etc., à 6 mois et quelques jours.